Mon cher Thomas Piketty, vous êtes l'économiste français le plus connu dans le monde et en plus, vous êtes économe de l'argent des autres. C'est simple. À 25 euros les 1232 pages, votre livre est la meilleure affaire de la rentrée. Pensez que le Yann Moix coûte 19 euros pour 272 pages. Je m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu d'émeute dans les librairies, comme lorsqu'un supermarché brade la pâte à tartiner. Déjà, votre précédent best-seller, vendu à 2 200 000 exemplaires, était très meublant.
Le principal, c'est que les gens lisent. Après, il faut y passer un peu de temps, et ça, moi, je peux pas être derrière tout le monde.
Vos parents lançaient des pavés du haut des barricades de 68, vous les fabriquez, c'est plus rentable. Petit détour par l'enfance. Papa technicien, maman institutrice, tous deux de lointaine origine italienne, rêvant du grand soir et ayant élevé des chèvres dans le Roussillon. Mais grands-parents de droite, riches et catholiques.
C'est quand même assez fort, quoi.
Est-ce là que vous avez ressenti pour la première fois ces inégalités sur lesquelles vous avez concentré vos recherches? Psychologie à deux balles, balayez-vous. En 1989, la chute du mur de Berlin vous fait entrer dans l'âge adulte. Aux utopies, vous préférez l'aridité des données. De l'école normale supérieure, au MIT aux États-Unis, de l'école d'économie de Paris à la London School of Economics, vous faites parler les chiffres. Ils disent un monde vraiment très mal foutu. Engagé un temps avec le Parti Socialiste, vous avez conseillé brièvement Royal et soutenu Hollande, puis Hamon. Vous n'aimez pas Macron. Les politiques, concluez-vous, sont incroyablement floues et malléables. Mais de l'Europe aux États-Unis, la gauche ne jure que par vous. Alors, à quoi sert, mon cher Thomas, l'économie sans débouché politique? Allez, vous avez 40 minutes pour répondre.
Pas mal vu. C'est difficile de convaincre les politiques avec vos idées. Vous prêchez, vous essayez de les convaincre. Est-ce que finalement, votre vrai rêve, c'est pas d'ailleurs de faire vous-même de la politique? Vous n'y êtes pas tenté?
Non, mais pas du tout. Les politiques, vous savez, c'est pas eux les décideurs, c'est vous les décideurs. Enfin, les politiques sont les esclaves de l'opinion publique et ne font que faire passer, à un moment donné du temps, ce qui leur paraît être le consensus dominant. Donc ce qui compte, c'est de forger, de contribuer à transformer ce consensus dominant. Et moi, je crois beaucoup dans les idées,
les
idéologies. Et ce livre, justement, montre que l'histoire des inégalités, c'est pas une histoire principalement économique, technologique, c'est une histoire des idéologies qui structurent les inégalités et qui peuvent toujours structurer les choses différemment. C'est-à-dire, il y a toujours des alternatives et c'est d'abord sur ce terrain des idées qui ensuite peut contribuer au changement historique.
Anne. Oui, une question de Béotienne, Thomas Piketty, mais c'est la question de base. Est-ce qu'il faut vouloir absolument abolir toutes les inégalités qui sont mauvaises par nature, ou est-ce que c'est leur augmentation jusqu'à un seuil important qui est problématique?
Oui, toutes, ça va faire beaucoup, hein, quand même.
Donc, bah c'est pour ça qu'on pose la question.
Donc on est bien d'accord, ça va pas être toutes. Donc la question, c'est quelles inégalités, quelle ampleur, et puis accepter de rentrer dans un débat serein autant que possible. Parce que le problème du débat sur les inégalités, c'est que tout de suite, les gens s'énervent très vite. On leur dit, regardez, aux États-Unis, il y a eu un taux sur les plus hauts revenus de 75% en moyenne entre 1950 et 1990. Ensuite, ça a été abaissé sous Reagan dans les années 80 avec la promesse qu'il y aurait plus de croissance. Et le taux, effectivement, a été abaissé à peine 35% en moyenne entre 1990 et 2020, donc divisé par deux. Est-ce que la promesse de plus de croissance a fonctionné? On leur fait remarquer que le taux de croissance du revenu national par habitant était en fait divisé par deux lui aussi, passé de 2,2% sur la première période, 1,1% sur la deuxième. Et les gens, souvent,
l'impôt ne nuit pas la croissance.
Je dis juste, ça, ce sont des faits. Je crois qu'ils sont pas contestés. Alors après, comme toujours en matière historique, on peut trouver d'autres interprétations. C'est-à-dire, on peut dire, en fait, la croissance s'apprêtait à être divisée par 4, et grâce au réganisme, elle n'a été que divisée par 2. Mais vous voyez, il faut s'accrocher quand même pour faire cet argument. Donc moi, je demande à tout le monde juste d'essayer de participer à ce débat en apportant des éléments, des raisonnements. Je serai le premier à les lire, et ça me fera peut-être changer d'avis. Mais sur la base, sur cet exemple-là, effectivement, sur la base des éléments dont je dispose, je pense que la promesse réganienne des années 80, qui avait son fond de plausibilité, moi j'essaie d'insister là-dessus, je diabolise aucune idéologie. C'est-à-dire, je pense que toutes les idéologies ont leur part de plausibilité.
Et qu'elles cherchent toutes partout et depuis tout le temps, quasiment, c'est l'objet de ce livre, à justifier ces inégalités.
Oui, mais au nom de l'intérêt général, pas pour être méchant. Et personne, Reagan n'a jamais dit, et personne n'a jamais dit, je veux que les riches soient riches pour que les pauvres soient plus malheureux. Ils ont toujours dit, ça va aider les pauvres. Et il y a toujours un fond de vérité. Sauf qu'à un moment, on est 30 ans, 40 ans après la rupture de 1980. Voilà, il est temps de regarder, et est-ce que ça a marché? Donc moi, ce qui m'embête, c'est les gens qui refusent cette discussion. On leur parle de cette expérience aux États-Unis. Ils vous disent, vous voulez l'Union soviétique, le bolchevisme. Non, je vous parle des États-Unis.
Revenons en France, Jean-Mathieu.
Vous voulez Cuba?
Revenons en France.
Vous avez parlé de Thomas Piketty aux États-Unis où il y a beaucoup de riches. En France, on parle souvent de sentiments anti-riches en France. Est-ce que vous avez l'impression d'y contribuer?
Alors, il y a une rhétorique classique en France qui existe en fait depuis la Révolution française, qui est de dire en France, on est un pays tellement égalitaire. Par exemple, on n'a pas besoin d'impôt progressif sur le revenu. Donc en 1914, exactement avec ce même genre d'argument, de dire en France, on est tellement égalitaire, pourquoi vous voulez vous en prendre aux riches? On ne voulait pas créer d'impôt sur le revenu. Et c'est le dernier pays, la France, à avoir créé un impôt progressif sur le revenu, avec ce type d'argument, de dire en France, comme on a fait la Révolution française, on est déjà un pays tellement égalitaire.
Il n'y a pas aujourd'hui une forme de ressentiment anti-riche qui persiste.
Aujourd'hui, je pense surtout qu'il y a une rhétorique pour justifier les inégalités en France. Par exemple, on est quand même un pays qui va mettre trois fois plus d'argent public dans un élève de grande école de classe préparatoire que dans un élève issu de milieux plus défavorisés qui va à l'université. Et tout ça en toute bonne conscience. On dit, d'ailleurs, c'est la méritocratie républicaine, puisqu'on n'est plus dans l'ancien régime. Bon, c'est bien que deux siècles plus tard, on ne soit pas retourné dans l'ancien régime. Mais oui, on ne met pas la barre très haut quand on dit ça. Donc, il y a des rhétoriques comme ça qui essayent d'avoir leur effet, qui parfois l'ont. Mais il faut essayer quand même de les démonter. Il faut essayer de regarder. Et il y a beaucoup d'hypocrisie. Si vous voulez dire par exemple, les inégalités en France ont moins augmenté qu'aux États-Unis ou au Brésil. Bon, c'est très bien, mais les gens le savaient déjà. C'est-à-dire personne, ça va convaincre personne en France de se dire on doit être super content, c'est pas comme au Brésil.
Il y a une dimension, propositionnelle aussi dans votre ouvrage, et vous proposez notamment de dépasser le capitalisme. C'est l'expression que vous évoquez. Ce capitalisme, justement, on va l'évoquer à travers une archive. Vous avez une archive, Anne, qui va nous faire remonter 11 ans en arrière.
Oui, on la disait, too big to fail, c'est-à-dire trop important pour que l'État américain la laisse faire faillite. Et pourtant, le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, la banque d'affaires, déposait le bilan victime de la crise des subprimes qu'elle avait contribué, bien sûr, à créer. On se souvient tous de ces images de youpi sonner partant des buildings avec des cartons à la main. Je vous propose qu'on regarde une archive tirée du journal de TF1 de l'époque.
Ils n'ont eu que quelques heures pour faire leur carton. Les 25 000 employés de Lehman Brothers sont les premières victimes visibles de la débâcle. Une bérésina financière sans précédent depuis la grande crise de 1929. Jamais dans l'histoire pourtant mouvementée de Wall Street, une banque aussi importante n'était tombée en faillite.
On a tous vu la catastrophe venir. En fait, il n'y a plus personne aux commandes du conseil d'administration.
Il y a 6 mois, George Bush avait accepté de renflouer Bear Stearns, un autre mastodonte de la finance au bord de la ruine. 30 milliards de dollars d'argent public avaient été engloutis dans cette opération de la dernière chance.
La grande leçon, c'est que tout le monde en Amérique, y compris le gouvernement, les entreprises et même les ménages, vit au-dessus de ses moyens. Les gens passent leur temps à emprunter. Tout ça ne peut plus durer.
Et donc, il y a 11 ans.
Il y a 11 ans. Et en 2008, justement, certains prophétisaient, si ce n'est la mort, au moins la refondation totale du capitalisme. Depuis, les affaires ont repris comme si de rien ne s'était passé, non, Thomas Piketty?
Oui, alors, il y a toujours des choses comme qu'on essaie d'apprendre de l'histoire. Donc, ce qu'on a appris de la crise de 1929, par exemple, c'est qu'il ne fallait pas que les banques centrales laissent tomber le système financier en faillite. Donc, il y a eu la faillite de Lehman, mais après, les banques centrales sont intervenues pour éviter...